France Info. Et bienvenue pour ce premier 8h30 politique du samedi sur France Info, le premier de l'année 2018. Avec nous, Jeannick Halimi, bonjour.
Bonjour,
et bonne année. Rédactrice Merci. En chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. La tradition reste la même. Vous posez la première question à notre invité, Pierre Persson, qui est député La République En Marche de Paris.
Bonjour Pierre Persson.
Bonjour,
alors nos premières questions vont porter sur le scandale là, hein, qui éclabousse pas mal de gens aujourd'hui en France et surtout qui fait pas mal de victimes parmi les nourrissons. Je veux parler de Lactalis. Bruno Le Maire a chargé considérablement Lactalis et les distributeurs. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est allé un peu vite en besogne quant à la responsabilité de l'État et des services de contrôle comme la DCCRF?
Je pense que surtout, c'est pas allé suffisamment vite parce que le sujet, on en parle déjà depuis un mois. Je pense qu'il faut rassurer nos concitoyens et dire que les contrôles ont été effectués, accrus depuis le 26 décembre. 2500 contrôles ont été effectués. Il y en aura 2500 encore la semaine prochaine.
Que le ministre... première alerte date du 1er décembre quand même.
Oui, c'est ça. Mmh. Ça fait déjà
un mois et demi.
Déjà un mois et demi qu'on en parle. Mais je pense que la culture du secret aussi du groupe a fait que déjà c'est assez compliqué. D'ailleurs, c'est pas le rôle directement de l'État de rentrer dans le fonctionnement d'un groupe privé. C'est la problématique. Après, on verra bien les sanctions parce qu'il y a une enquête qui a été ouverte. C'est d'ailleurs de l'ordre judiciaire et c'est pas de mon ressort de commenter. Mais ce que je veux dire, c'est que l'État aujourd'hui, par la voix notamment de Bruno Le Maire et du gouvernement, s'est engagé à ce que l'intégralité des boîtes de lait et notamment tous les produits fabriqués sur le site de Craon seront retirés de la vente pour éviter qu'il puisse y avoir un doute quant à la sécurité alimentaire dans notre pays.
Avant de continuer à en parler, très rapidement, écoutez ce qu'en disait l'ancien ministre de l'Agriculture, l'ancien ministre socialiste Stéphane Le Foll. Il était notre invité dans Tout est politique sur France Info, c'était jeudi soir.
Mais moi j'ai été frappé.
Qu'est-ce que l'on fait concrètement?
Il y a un mois, il n'y a pas eu une prise de parole politique dès le début. Il fallait monter tout de suite, imposer, comment dirais-je, une information immédiatement, mettre la pression sur les acteurs et engager. Ça a été fait, mais pas suffisamment de manière claire. Là, il y a quand même un problème.
Donc vous semblez reconnaître chez nous, Pierre Persson, ce matin, que l'État a agi peut-être un peu tard, c'est ce que vous disiez ?
Non, du tout. Je ne le pense pas. Je pense que déjà, directement, la DGCRF, au mois de décembre, est intervenue avant. Mais ce que je dis juste, c'est qu'on est dans un cadre privé, c'est une entreprise privée. Il y a eu une demande de retrait des différents produits, immédiatement. Il y a eu des contrôles. Les distributeurs n'ont pas directement retiré les produits dans les magasins.
Et surtout, Lactalis a continué à mettre de nouveaux lots qui se sont avérés contaminés.
Ça, c'est l'enquête qui l'établira et on pourra ensuite juger sur les faits. Pour l'instant, ça, je ne le sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics sont conscients à la fois des dangers des produits, mais aussi de l'inconscient que ça peut engendrer dans la tête des consommateurs. Et donc, c'est pour cela que nous avons demandé au PDG de Lactalis de retirer l'intégralité des produits du site de Craon pour éviter que, il puisse y avoir d'autres contaminations sur le marché dans d'autres produits.
D'un point de vue contrôle des pouvoirs publics, le groupe socialiste, Front National, la France Insoumise, je crois, à l'Assemblée nationale, demande une commission d'enquête parlementaire. Est-ce que vous seriez favorable à la mise en place de cette commission ? Alors c'est vrai qu'il y a une enquête judiciaire qui est ouverte.
Oui, déjà d'une part, il faut pas de redondance. Je pense que l'autorité compétente en la matière, c'est l'autorité judiciaire. Après, il faut pas d'enquête et de commission d'enquête toujours à chaque fois qu'il y a un fait. Moi, je suis contre ce genre de fonctionnement. Après,
ça fait assez grave quand même là.
Oui, c'est grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse à la sécurité alimentaire en France en général, aux procédures de contrôle, aux procédures de répression.
Que faudrait-il faire alors ?
Je ne sais pas parce que je ne suis pas.
Quelle leçon allez-vous tirer de
ce Je ne suis pas un spécialiste. La leçon que nous devons tirer, c'est que nous devons agir à la fois avec les interlocuteurs que sont les distributeurs, que sont les producteurs, et qu'on doit agir sûrement, à mon sens, plus vite, et qu'il faut apporter une réponse, notamment en termes de, pas de répression, mais juste d'enquête, et en tout cas, on constate les faits, et on verra ensuite ce qu'il en ressort. Mais il ne faut pas laisser, en tout cas, le sujet se diluer, dirais-je.
On a quand même du mal à comprendre que des choses sont encore possibles comme ça en France en 2018. Maintenant, une grande entreprise qui a pignon sur rue, qui met autant de temps à retirer ces lots contaminés du marché. On parle quand même de choses qui ont trait à la santé des nouveau-nés. On peut estimer qu'en 2018, sans faire de leçon de morale, on pourrait éviter ce genre de scandale qui en plus dure des jours et des jours.
Bien sûr, mais c'est pour ça que je le redis, aujourd'hui la DGCCRF est sur le coup, 2500 contrôles au mois de décembre, 2500 supplémentaires encore la semaine prochaine, on a retiré tous les produits, je pense que les actes politiques ont suivi. Après, c'est de l'ordre de l'interne, il faudra peut-être sûrement auditer les procédures en la matière.
Tout de même, de façon plus précise, le principe en France, et également au niveau européen d'ailleurs, est fondé sur l'autocontrôle, l'autodiscipline des distributeurs et des producteurs. Est-ce que vous êtes favorable au renforcement de cette autodiscipline ou au contraire à un contrôle beaucoup plus accru de la part des services de l'État, sur le principe au moins?
L'État ne peut pas être partout. Voilà, vous voyez, on est un pays où il y a beaucoup de multinationales, on a des acteurs incontournables, quasiment marché européen, et l'État ne peut pas tout faire. Donc il faut aussi faire confiance aux acteurs.
Vous êtes
aux
très
acteurs
libéral de ce, sur ce non, sujet-là, non, comme l'Europe d'ailleurs,
Non, le sujet c'est d'être aussi pragmatique. Si on ne peut pas avoir un contrôleur derrière toutes les usines en permanence. Je pense qu'il y a des contrôles parce que la sécurité alimentaire des Français est primordiale, mais que certes, nous regarderons à l'aune de pas de ce scandale, mais quasiment le sujet des règles, des procédures. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il faille qu'il y ait des contrôles systématiques.
Il y a une autre actualité qui vient d'intervenir, qui n'a rien à voir avec Lactalis, qui concerne les surveillants de prison. Il y en a 3-4 même qui ont été agressés la semaine dernière dans le Pas-de-Calais par un détenu radicalisé. Ils appellent à une grève nationale lundi. Est-ce que vous êtes député, mais la majorité que vous représentez apporte son soutien plein et entier aux surveillants de prison qui demandent plus de moyens, la question.
Bien entendu. Mais d'ailleurs, c'est ce que nous faisons. Nous ouvrons des places de prison parce que la surpopulation carcérale aujourd'hui a aussi un impact là-dessus. C'est-à-dire que quand vous avez plusieurs détenus dans une même pièce, il y a sûrement plus de friction, plus de violence. Il y a une difficulté aussi pour les gardiens sûrement à gérer la situation. Et donc, je pense que nous ouvrons la matière et on peut que apporter son soutien, bien entendu, à la profession.
Très rapidement, Yannick.
Oui, très rapidement. Est-ce que le contrôle de la radicalisation islamiste en prison est bien fait, bien assuré d'après vous? Est-ce qu'il faut renforcer encore les mesures dans ce domaine-là?
Oui, je fais confiance en la garde des Sceaux. La garde des Sceaux s'est exprimée hier soir sur le sujet. Elle a dit que aujourd'hui, en France, on faisait le nécessaire, donc je pense que nous faisons le nécessaire.
Nicole Belloubet qui reçoit d'ailleurs une partie des syndicats qui représentent les surveillants de prison cet après-midi. Merci, restez évidemment avec nous, on a beaucoup d'autres sujets d'actualité à balayer ensemble sur France Info. Avant cela, à 8h40, c'est l'info avec Léo Chapuis.
Et avec d'abord l'actualité internationale, finalement les États-Unis ne se retirent pas de l'accord sur le nucléaire iranien. Après avoir laissé planer le doute, Donald Trump accepte de laisser un dernier sursis à ce texte auquel il est pourtant opposé. Mais le président américain lance un ultimatum. Il appelle la communauté internationale à durcir cet accord qui est censé permettre d'éviter une guerre. On en parlait il y a donc un instant. Les surveillants de prison sont reçus aujourd'hui par le ministère de la Justice. Les syndicats réclament plus de moyens face aux détenus les plus radicalisés, les plus dangereux. Après donc l'agression de 4 surveillants cette semaine dans le Pas-de-Calais, les syndicats qui appellent au blocage total des prisons. Ce sera à partir de lundi matin. En football, Guingamp poursuit sur sa belle série. Les Guingampais sont sortis vainqueurs hier soir de leur match à Strasbourg. Une victoire 2-0. Guingamp remonte à la 6e place au classement, suite de la 20e journée de championnat, avec cet après-midi Marseille qui se déplace à Rennes. Et puis la belle victoire des experts à l'Euro de handball. Les Bleus réussissent leur entrée dans la compétition. Les Français qui sont venus à bout hier soir des Norvégiens, 32-31.
France Info. 8h30 politique, toujours en compagnie de Yannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, et de notre invité Pierre Person, député La République En Marche de Paris. Alors il y a une autre actualité qui fait polémique en ce moment, elle concerne l'immigration et la circulaire du 12 décembre du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sur l'accélération des expulsions et l'introduction de contrôle au sein des centres d'hébergement d'urgence. Écoutez ce qu'en disait cette semaine sur la chaîne parlementaire Brigitte Bourguignon, l'une de vos collègues, présidente de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée.
Ça a peut-être été présenté de manière brutale à cause de la circulaire, évidemment, qui peut froisser et qui nous a froissé à beaucoup, d'ailleurs. C'est pas le projet d'asile en lui-même, ça a été cette circulaire qui a été mal perçue, y compris par les milieux associatifs.
Une forme de gêne, peut-être, par rapport à ce texte. Est-ce que vous, personnellement, vous ressentez une forme de malaise par rapport à la façon dont ça a été présenté.
Non, je n'ai aucune gêne. Je vais vous le dire, je pense qu'il n'y a pas d'un côté les généreux que seraient certains commentateurs et d'autre côté des égoïstes inhumains que serait la majorité ou Gérard Collomb. Je pense qu'aujourd'hui, sur ce sujet, il faut un peu plus de rigueur, un peu moins de faux-semblants, il faut un peu moins de manichéisme et il faut expliquer les choses. Peut-être plus de pédagogie. Sur la circulaire, qu'est-ce qu'il en est ? Aujourd'hui, en France, le gouvernement, notamment, a tout fait pour augmenter le nombre de places en centre d'hébergement d'urgence. Et c'est un engagement, parce que l'accueil doit être inconditionnel. On ne peut pas satisfaire qu'aujourd'hui, des gens dorment dans la rue, notamment lorsqu'ils ont fait plusieurs milliers de kilomètres. Mais pour le coup, nous ne sommes pas en capacité de savoir qui il y a dans ces centres. Il y a des gens qui sont à l'hôtel depuis 10-15 ans et qui pourraient bénéficier de logements parce qu'ils ont le statut de réfugié. Bien, nous ne savons pas. Et ces gens, aujourd'hui, sont dans des hébergements qui ne sont pas normalement voués à être. C'est-à-dire que ces centres d'hébergement sont des centres d'hébergement pour les personnes qui viennent d'arriver, qui sont dans des situations extrêmement précaires. Et il faut pouvoir aussi savoir qui il y a dans ces centres.
Là, vous parlez des gens qu'on peut contrôler pour les accueillir.
Ceux qui ont déjà le statut de réfugié dont vous parlez, ces gens-là. Ils ont déjà le statut de réfugié.
Il y a des gens dans ces centres, vous avez des gens qui sont sous une procédure de renvoi, vous avez des gens qui n'ont pas fait de déclaration, qui n'ont pas demandé le statut de réfugié, vous avez des gens qui ont le statut de réfugié. Mais quoi qu'il en soit, dans un centre d'hébergement d'urgence, quand vous avez une personne qui est là depuis 10 ou 15 ans, c'est qu'on a déjà dépassé le cadre de la situation d'urgence. Et vous utilisez un terme que aujourd'hui moi je ne veux pas utiliser, c'est le mot contrôle. Pourquoi ? C'est pas parce qu'aujourd'hui on dit en France il faut un état des lieux, parce que la spécificité du système français, c'est que c'est pas l'État qui gère directement en fait l'hébergement d'urgence, c'est les associations auxquelles on fait intimement confiance. Mais il faut aussi qu'on puisse se dire, on ouvre des places, on multiplie par deux et on va encore en rouvrir. Le budget quand même sur le sujet a augmenté de 27% cette année au PLF 2018. Donc c'est bien que nous considérons qu'aujourd'hui il faut faire en la matière, mais il n'y a pas de contrôle, c'est-à-dire que les agents que nous enverrons dans ces centres, et ça a déjà commencé, sont des agents de l'Office de l'immigration. Ce ne sont pas des forces de l'ordre, des OPJ qui ont le pouvoir de contrôler les papiers.
Il y aura des agents des préfectures également, non ?
De l'Office française de l'immigration, de
l'OFI. Pas de préfecture stricto sensu.
Ce sera en tout cas pas des agents des forces de l'ordre.
Ces gens-là devront bien faire, pardon de l'expression, le tri, c'est
pas le tri.
Entre ceux qui relèvent ou qui peuvent relever du statut de réfugié et ceux qui n'y ont pas droit parce que ne venant pas de pays considérés comme un risque politiquement et qui devront retourner dans leur pays. C'est bien la tâche qui leur est confiée à ces agents.
Non, la tâche, c'est de faire un état des lieux de qui séjourne dans ces centres. Simplement un état des lieux.
D'accord, mais quand on dit qui, c'est qui doit retourner et qui peut rester.
Mais pas directement, parce que la personne, si aujourd'hui on lui demande sa situation, si elle ne souhaite pas être aidée, elle pourra ne pas répondre. Et c'est pas pour ça qu'il y aura des forces de l'ordre qui viendront aujourd'hui.
Allez-y, on a signifié.
Non, mais c'est pour ça, je veux vraiment rassurer là-dessus, parce qu'on a entendu plein de choses. Je pense qu'il y a peut-être eu un manque de pédagogie sur la circulaire au mois de décembre, mais j'insiste là-dessus.
Alors, vous faites actuellement de la pédagogie pour nous expliquer qu'effectivement, on ne sera pas dans un tri ou quelque chose qui peut supporter une valeur négative. On vient d'entendre ce que disait Brigitte Bourguignon. Est-ce que vous êtes, de manière plus générale, on va creuser cette question-là, vous êtes 312 députés à La République En Marche, c'est beaucoup. Vous n'êtes pas forcément tous d'accord, et heureusement, c'est un peu comme dans les familles, je pense qu'il y a souvent des disputes. Sincèrement, est-ce que la pédagogie n'a pas manqué sur ce thème-là, y compris au sein de vos propres rangs ?
Non,
on a l'impression que Brigitte Bourguignon est un peu heurtée par ce texte, c'est ce qu'elle dit, ou alors on comprend mal.
La pédagogie a lieu, je pense qu'il y a peut-être eu un sujet sur la circulaire, mais aujourd'hui Gérard Collomb reçoit tous les parlementaires, il a reçu, comme il a reçu toutes les associations, il fait un travail de pédagogie sur le texte, et je pense, et je veux réitérer à votre micro que le texte qui sera proposé notamment par Gérard Collomb est un texte équilibré, que c'est un texte qui prévoit le raccourcissement des procédures, parce qu'il faut conférer un véritable droit effectif, pas simplement un droit de papier au droit d'asile, que ce soit un droit qui soit conféré dans les faits. Et pour cela, il faut arrêter d'imaginer que quelqu'un qui arrive sur le sol français peut se permettre d'avoir 3 ans pour détenir le droit d'asile sur le territoire. Il y a ce qui est les procédures d'éloignement, parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Et le troisième volet, c'est l'intégration, parce que c'est ce que nous avons toujours échoué depuis 20 ans, à intégrer aujourd'hui les gens qui arrivent en France. Et c'est toute la mission d'Aurélien Taché qui propose notamment de 400 heures de français.
Député La République En Marche. Mais alors, juste pour terminer sur ce point-là, tout de même, et pour poursuivre la question de Matteo Mastracci, s'il y a eu de la pédagogie, il n'empêche qu'il y a des sensibilités différentes au sein de La République En Marche, c'est évident, Brigitte Bourguignon et d'autres, Sonia Crimi notamment, que certains qui s'est exprimé de façon assez violente à l'Assemblée nationale à la fin de l'année dernière sur ce sujet-là. Est-ce que vous pensez, au regard des sensibilités différentes de La République En Marche, notamment sur ce sujet, que le projet de loi de M. Collomb pourrait être voté par La République En Marche ou qu'il y a, il risque d'avoir un problème de vote majoritaire
mais
à ce moment-là?
Vous avez raison, il y a des sensibilités, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a des divergences. Je vais vous le dire et vous je vais prendre mon exemple concret parce que moi, ce qui m'a fait venir en politique, c'est notamment la question migratoire. Ce qui m'a fait venir à Emmanuel Macron, c'est notamment sa position sur les réfugiés. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de paradoxe, il n'y a pas d'antinomie. Je dirais que ce n'est pas paradoxal aujourd'hui. Je pense que les députés de la majorité, de La République En Marche, comprennent bien que le sujet, c'est un sujet complexe, qui ne mérite pas de faux semblants, qu'il faut faire de la pédagogie sur le projet. Et donc, j'ai pas de doute que
donc
le projet
en l'état... Donc, ils aboient, mais ils ne mordent pas, les députés de La République En Marche.
Je ne vois pas de députés de La République En Marche qui aboient. D'ailleurs, je ne suis pas
fort.
Là pour aboyer.
Certains parlent fort.
Alors, mais pour revenir, je prends mon cas concret. Vous êtes un député plutôt jeune, ce n'est pas péjoratif. Vous avez justement maintenant plusieurs semaines d'expérience à l'Assemblée. On a dit beaucoup au début que ce raz-de-marée de La République En Marche allait peut-être parfois donner des députés godillots qui votent sans forcément réfléchir ou en tout cas sans contredire le patron qu'est Emmanuel Macron ou le Premier ministre. Vous-même, sur les textes de loi que vous avez votés, approuvés depuis le début de ce mandat, est-ce que vous avez eu, vous pouvez nous le dire honnêtement à ce micro, parfois des cas de conscience ou est-ce qu'à chaque fois, sans réfléchir, vous avez voté pour ce qui était présenté par le gouvernement ?
Et moi, j'ai contribué à la campagne présidentielle. J'étais quasiment l'un des premiers marcheurs. C'est-à-dire que j'ai travaillé aussi sur le programme présidentiel. Aujourd'hui, dans la mesure où nous sommes en train d'appliquer le programme présidentiel, qui est connu déjà maintenant depuis quasiment un an, eh bien, je ne peux pas avoir de divergence. Par contre, j'ai, en tant que parlementaire, contribué, à mon sens, à enrichir notamment certains textes. Moi, je travaillais sur la question du projet de loi de finances, la question des emplois francs que nous avons porté, notamment avec Aurélien Taché et Sacha Houlier, sont des sujets qui me paraissaient importants et qu'il fallait, par exemple, accélérer la mise en œuvre de ces emplois francs parce qu'il y avait une réponse politique et opérationnelle, concrète, à apporter à certains jeunes, notamment, qui aujourd'hui se sentent délaissés. Donc, je pense qu'en tant que parlementaire, j'ai une autre plus-value qui permet d'enrichir les textes que celle de m'opposer toujours systématiquement ou de vouloir voir des frondeurs dans la ligne majoritaire.
Allez, on a évidemment d'autres sujets à voir avec vous. Merci Pierre Persson. Restez évidemment avec nous. Ce sera mieux pour continuer l'émission si vous restez 8h50. On revient à l'info avec Léo Chapuis. À tout de suite.
Et d'abord, cette information de dernière minute. On apprend qu'un enfant est mort de la grippe cette semaine à l'hôpital de Lourdes. Alors qu'on est en pleine épidémie, le ministère de la Santé précise que le virus est particulièrement dangereux cette année pour les plus jeunes. Dans l'affaire Lactalis, ce sont des centaines de familles qui ont porté plainte d'après le décompte de l'association qui regroupe les victimes. D'après cette association, le scandale est sous-estimé. Scandale sanitaire qui s'étend désormais à l'étranger puisqu'un cas de salmonellose a été détecté chez un enfant en Espagne, un autre cas suspect en Grèce. C'est l'indignation générale en Afrique après les propos de Donald Trump sur les migrants et les pays de merde. 54 pays africains demandent des excuses au président américain qui se défend d'avoir utilisé cette expression. Donald Trump, qui par ailleurs est en excellente santé, si l'on en croit le médecin de la Maison Blanche, le président américain a passé la traditionnelle visite médicale. Aucun examen psychiatrique n'était au programme. Ses détracteurs mettent donc toujours en doute sa santé mentale. Et puis premier match et première victoire pour les experts hier soir à l'Euro de handball. Victoire très précieuse des Bleus contre la Norvège. Prochain match des Français, ce sera demain soir contre l'Autriche.
La suite et la fin de 8h30 politique sur France Info avec Yannick Halimi et notre invité Pierre Persson. On va parler des chômeurs, du contrôle des chômeurs dans un instant. Yannick Halimi, une petite question sur un autre sujet d'actualité. Ça concerne un certain aéroport.
Notre-Dame-des-Landes, si ça vous dit quelque chose.
Ça me dit quelque chose, vraiment.
Bon, on en parle depuis près de 30 ans. Vous n'étiez pas né, mais on en parlait avant que vous naissiez. D'après vous, vers quelle décision nous dirigeons-nous et quelle serait votre préférence?
Je ne peux pas vous dire la décision. D'ailleurs, elle ne
ne m'appartient pas. Ce sera un beau scoop, vous l'êtes
sûr. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que en effet, il y a peu de sujets de 30 ans qu'on n'a pas fait il y a 30 ans, qu'on fait 30 ans après. Je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être se poser, et je pense que les acteurs autour de la table se posent cette question, mais quelles sont les alternatives? Je pense malheureusement que...
Donc vous parlez plutôt d'alternatives, là, ce qui veut dire que...
C'est mon point de vue, parce
oui,
que...
Très bien. On va vous en parler spontanément, donc vraisemblablement, on se dirige vers une alternative.
Non, mais vous savez, non, mais vous n'aurez pas de ma part, parce que d'ailleurs, je ne connais pas la décision.
Hein.
Oui, elle essaye, mais... Je pense que c'est difficile aujourd'hui de dire qu'un sujet qui n'a pas été fait il y a 30 ans, on va le faire maintenant. C'est un sujet complexe. Ça engendre quand même plusieurs choses, à la fois sur la question de l'autorité de l'État, sur des décisions qui n'ont pas été prises. Souvent, il n'y a que des mauvaises décisions. En tout cas, il n'y a que des coups à prendre lorsque vous ne prenez pas les décisions au bon moment. Et je pense qu'on est dans ce cadre-là, c'est-à-dire que les pouvoirs publics n'ont pas pris la décision il y a bien longtemps, et qu'aujourd'hui, toute décision, elle aura des conséquences, à mon avis, négatives.
Alors, on n'avait pas forcément prévu de vous faire un spécial polémique, mais il y en a une dernière qui a aussi éclos ces derniers temps. Depuis jeudi, il y a des discussions avec les partenaires sociaux sur la réforme de l'assurance chômage, et il est prévu un contrôle renforcé, annoncé en tout cas des chômeurs. Écoutez ce qu'en disait un autre de vos collègues, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, c'était sur France Info jeudi matin.
Moi, le contrôle des chômeurs ne me choque pas. Ne me choque pas parce que dans le contrôle, il y a aussi l'accompagnement des chômeurs. L'idée est de créer des droits nouveaux. Mais à des droits nouveaux correspondent des devoirs nouveaux. Celui de la recherche active me semble un devoir évident.
Alors, vous avez dit qu'il n'y avait pas de contrôle sur l'immigration. Est-ce qu'il y en aura un des chômeurs ou pas ? Est-ce que le terme
est exact ? Je pense qu'il faut revenir sur le principe aujourd'hui, c'est que structurellement, personne n'échappe au chômage. Que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans ou 60 ans, vous êtes touché par le chômage. Et donc, c'est un risque structurel. Et à cet égard, nous avons donc accru les droits. Droit à la démission, droit pour les personnes qui ont une profession plutôt libérale, les entrepreneurs, les artisans, de toucher le chômage. Mais en contrepartie de cela... Parce que le système doit marcher aussi, parce que c'est la cohérence du système, il faut aussi une obligation, celle de s'assurer que la personne fait bien les démarches pour trouver un emploi. Et donc moi, ça ne me choque pas dans la mesure où vous avez des droits qui sont étendus, que vous avez une formation qui sera accrue, la question de la recherche active ou bien des deux offres d'emploi, on verra bien quel est le périmètre, et ça, ce sera dans les discussions qui auront lieu entre les partenaires sociaux, l'exécutif et bien entendu avec la majorité. Ça ne me dérange pas qu'il y ait un contrôle.
Très bien. Mais Pierre Person, sauf si par bonheur le chômage diminuait fortement, il risque d'avoir tout de même un problème de financement du système d'indemnisation chômage, notamment si, comme l'avait promis Emmanuel Macron, le système devient universel et est élargi notamment aux professions libérales, aux petits entrepreneurs. Il semble que justement sur ce point-là, le gouvernement, les partenaires sociaux souhaitent obligés de faire marche arrière faute de financement. Est-ce que là, ce n'est pas une promesse essentielle d'Emmanuel Macron qui ne serait pas tenue ?
Là, vous m'esquissez un scénario pessimiste. Moi, je ne crois pas. Je pense que de toute façon, les pouvoirs publics répondront, le Parlement répondra. C'est-à-dire qu'on fera sûrement un audit. Il y a un modèle de financement quand même de notre protection sociale en France et nous le votons. Et donc, il est pas question aujourd'hui que ce système soit déséquilibré. J'ai entendu, en effet, mais le sujet a déjà été abordé lorsque nous avions avancé la piste de la démission et de l'ouverture du chômage en cas de démission. Nous avait dit ça va énormément gonfler aujourd'hui les...
Les conditions des démissionnaires pour avoir droit à l'indemnisation chômage semblent tout de même renforcées. Donc il y a une prise en compte du coût de cette mesure. Mais sur l'universalité, encore une fois, ça intéresse beaucoup de gens.
Oui.
Est-ce que vous pensez que le gouvernement, les partenaires sociaux vont faire marche arrière
non,
sur le fait
que
les petits entrepreneurs, par exemple, pourraient ou pas avoir droit au chômage?
Je vais vous le dire, c'est le sens de l'histoire. Aujourd'hui, tout le monde est touché et impacté par le chômage. Et plus les années vont passer, plus les mutations économiques vont faire qu'on va avoir besoin d'une formation continue accrue et que on va changer plusieurs fois de boulot.
Pas là-dessus.
Non, on ne reculera pas parce que ça c'est consubstantiel même de notre proposition et notre vision de la protection sociale en France.
Il nous reste une minute, Pierre Person. Il y a désormais 4 candidats qui entendent succéder à Jean-Christophe Cambadélis à la tête du Parti Socialiste. Est-ce que c'est une compétition que vous suivez attentivement en termes d'offres politiques et de concurrents? Ou est-ce que vous considérez, comme d'autres, que le PS vit ses dernières heures, ses derniers soubresauts ?
Vous savez, déjà, j'ai beaucoup à faire à l'Assemblée sur le fond, donc je suis l'actualité, mais je ne rentre pas dans les différentes gestions internes.
Sans rentrer dedans, vous regardez ce qui se passe?
Oui, je regarde. Je pense qu'aujourd'hui, le PS a du mal à trouver une ligne politique claire entre la France insoumise, entre les sociaux-libéraux, les sociaux-démocrates que pouvaient incarner certains députés de La République En Marche. Donc, moi, je constate simplement qu'aujourd'hui, il y a une forme parfois d'opposition qui ne contribue pas à ce que le débat démocratique avance dans le bon sens, en tout cas vers une solution qui est celle de l'intérêt général. Mais après, c'est au PS de se trouver, c'est au PS de désigner ses futurs dirigeants, c'est pas à moi de...
Est-ce que vous voyez des tentations de certains socialistes de rejoindre ou d'appuyer La République En Marche à l'Assemblée ou ailleurs?
10 secondes pour répondre.
Oui, non.
Non, pas spécialement. Bon. Je vois le groupe Nouvelle Gauche qui est bien ancré et qui parfois a un discours qui est celui de l'opposition, mais qui se rapproche plus celui de la France Insoumise.
Merci Pierre Persson d'être venu ce matin sur France Info, à la radio, à la télé pour 8h30 politique. Merci. Merci. Yannick, à la semaine prochaine sur France Info. Merci.